Catherine le matin. 106.9 Mauricie.
Que la Mauricie se lève. À 9h25, je voulais prendre le temps de lui jaser. On en a beaucoup parlé de ça la semaine dernière, tout le dossier de Heinz, le ketchup. Bon, le fait que Heinz revient à Montréal produire, par contre, avec des tomates américaines. J'ai même parlé avec un producteur de chez nous. Et je trouvais intéressant sa vision des choses. Ça s'intitule « L'affaire n'est pas ketchup ». Sylvain Charlebois, à qui on parle régulièrement, directeur principal du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie. Bonjour, M. Charlebois.
Bonjour, Catherine.
Bonjour, merci d'être là. C'est intéressant parce que dans votre article, entre autres, vous faisiez référence à ce qui s'était passé à Leamington, en Ontario. Parce que là-bas, là, Heinz, c'est pas trop un nom à prononcer. Est-ce qu'on peut repartir de là? Il s'était passé quoi? Eux, ils avaient fermé leur usine là-bas. Puis c'est l'endroit où je pense qu'il se produit le plus de tomates au Canada.
Ouais, très rapidement, Leamington, c'est la capitale nationale de la tomate. On produit plus de tomates là-bas que partout au Canada. C'est de la tomate de transformation. C'est pas comme les belles tomates qu'on produit au Québec, là, on s'entend. Ouais. La tomate qu'on produit au Québec, c'est la tomate de détail. Là, on parle de tomate de transformation. C'est ce que Kraft Heinz a besoin. Ils ont fermé leur usine en 2014. Mais la communauté s'est remis de la fermeture. C'est organisé et on réouvert en fait l'usine en signant un contrat avec French's, un autre fabricant de ketchup aux États-Unis. Donc on a décidé de fabriquer de la pâte à tomate. C'est vraiment une histoire à succès, hein, Leamington, là, avec la fermeture, on s'est pris en main. Et là aujourd'hui, Leamington emploie plus de monde que durant l'époque de Kraft Heinz, imaginez.
Incroyable, hein? Oui,
c'est quand même... Mais le problème, c'est qu'en 2015, Loblaws avait décidé d'enlever de ses étagères la marque French's pour favoriser Heinz, et c'est là qu'il y a eu la guerre du ketchup, entre guillemets, et il y a beaucoup de monde, surtout en Ontario, qui boycotte la marque Heinz depuis ce temps-là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'animosité envers la marque, là, surtout en Ontario.
M. Charlebois, bon, éventuellement, on veut être capable d'approvisionner la compagnie avec des tomates québécoises, mais demain matin, là, la compagnie ne pourrait pas s'approvisionner que de tomates québécoises. On n'en produit pas assez pour ça, de ce que je comprends.
Oui. Quand j'ai entendu parler de l'annonce à Montréal, d'abord, j'étais content parce qu'on parle de 30 emplois en transformation. C'est pas rien, là. On a vraiment besoin de transformation. On a besoin d'investissement. Donc, c'est une très bonne nouvelle, mais où j'ai été extrêmement sceptique, c'est quand la compagnie a annoncé que d'ici 3 ans, on va s'approvisionner de tomates québécoises. Okay. C'est 2 millions, c'est un prêt de 2 millions garanti par les contribuables québécois pour transformer des tomates qui arrivent de l'étranger. Et deux jours plus tard, votre ministre de l'Agriculture annonçait une nouvelle politique alimentaire de 157 millions payés par nos enfants et nos petits-enfants, évidemment. Et là, lorsqu'on parle d'autonomie alimentaire, moi, à mon avis, il faut supporter nos producteurs agricoles. Moi, je vois pas comment, d'ici 3 ans, Kraft Heinz va s'approvisionner de tomates canadiennes et encore moins québécoises. Je le vois pas, moi.
Vous ne le voyez pas, OK. Mais donc, dans l'avenir, M. Charlebois, là, parce que ça aussi, j'en ai discuté avec un de nos producteurs là, qui a deux usines, ben, en fait, qui a des serres ici à Saint-Pierre-les-Béquets, puis du côté de Québec. Est-ce qu'éventuellement, ça va faire qu'on va payer nos produits du Québec moins cher? Parce que, tu sais, on prône l'achat local, puis c'est la bonne chose, là, tant mieux. Mais souvent, ça vient avec un prix plus élevé.
Ouais, d'abord, moi, je salue ce qui se passe au Québec parce que, disons que le MAPAC et puis le gouvernement québécois fait plus que toutes les autres provinces en passant. En termes d'autonomie alimentaire, il faut quand même, saluer l'effort. Là. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on demande aux contribuables et consommateurs québécois de faire tout. On paye pour une politique d'autonomie alimentaire de 157 millions et en plus, on demande à tout le monde de dépenser 12 $ le fameux défi 12 $ là. Oui. Mm-hmm. C'est beau, mais ce qui manque, à mon avis, c'est une stratégie pour attirer des investissements d'ailleurs. Et c'est ce qui se passe dans l'Ouest canadien actuellement. Le gouvernement fédéral a démarré une grappe stratégique qui s'appelle Proteins Industries Canada de 120 millions. Mais depuis 2-3 ans, la région a vu au-delà de 500 millions de dollars d'investissement de compagnies comme Nestlé, Rocket au Danemark, etc. Alors, moi, je pense qu'au Québec, on doit penser à attirer des investisseurs d'ailleurs, justement pour aider les Québécois dans leur ambition de développer une meilleure autonomie alimentaire. On peut pas faire ça tout seul. Il y a seulement que 9 millions de personnes au Québec, là.
OK, mais donc, est-ce qu'il y a des créneaux en particulier où c'est davantage criant quand vous dites des investisseurs d'ailleurs? Y a-t-il des secteurs où vous dites, OK, là, ce serait vraiment important qu'on le fasse, qu'on en a vraiment besoin?
Ben, au niveau de la demande, au niveau des fruits et légumes, il y a un problème, là. Ça, ah, c'est oui. Clair. Vraiment, là, ben, quand on regarde le guide canadien alimentaire aujourd'hui, oui. La moitié de l'assiette, c'est des fruits et légumes. Et à partir de maintenant jusqu'en mars-avril, là, 80% de ce qu'on mange en fruits et légumes est importé.
Oui. Okay.
Fait que c'est vraiment, ça, c'est un problème majeur. Donc, on doit miser sur la filière CRIS. Il y a oui. De belles choses qui se passent au Québec, puis j'ai l'impression que bientôt, votre ministre va annoncer de nouvelles mesures pour épargner au niveau de l'énergie. Au Québec, il y a de l'énergie propre, il y a de l'énergie pas chère, il y a de quoi à faire, là. Et ouais. Moi, c'est une question de temps, mais il faut une stratégie.
OK. Puis vous en parlez d'ailleurs pas mal du ministre Lamontagne, là, qui vous le considérez comme l'un des meilleurs ministres de l'Agriculture du Québec depuis Jean Garon. Donc, vous le trouvez assez efficace depuis qu'il est là?
Oui. Parce qu'il choisit pas de gagnant ou de perdant. Il écoute pas juste quelques groupes, dont l'UPA, soit dit en passant. On écoute tout le monde. Monsieur ministre Lamontagne fait ses devoirs. Qu'on soit d'accord ou non avec ses décisions, il est à l'écoute de tout le monde. Et ça, j'ai rarement vu ça. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était avec le ministre Garon au sein du gouvernement péquiste.
OK, mais vous m'avez interpellé quand vous dites qu'il écoute pas juste l'UPA. Ça veut dire quoi exactement?
Ça veut dire que le ministère de l'Agriculture n'est pas situé à Longueuil. Il est situé à Québec, avec M. Lamontagne. Parce qu'on dit souvent que le président de l'Union des producteurs agricoles est le véritable ministre de l'Agriculture. Oui. Pas avec le ministre Lamontagne, pas du tout.
Ah non? OK. Alors, donc, visiblement, il a mis carte sur table là-dessus. Donc, vous sentez que celui qui mène, c'est M. Lamontagne, alors qu'à l'époque, c'était lui.
C'est sûr que M. Groslo, le président de l'Union des producteurs agricoles, a son mot à dire, là. Mais on est à l'écoute des transformateurs, on est à l'écoute de l'Union paysanne, on est à l'écoute d'un paquet de regroupements qui sont aussi importants là, au Québec.
OK. Fait que vous, M. Charlebois, de toute façon, vous êtes un peu loin, mais vous ne souperiez pas avec M. Groslo tous les vendredis, de ce que je comprends, là.
Non, mais durant des événements, c'est sûr qu'il y a moins d'événements ces temps-ci depuis le début de la COVID, mais durant les événements, on se croise, puis on se parle, on se respecte. Ouais. J'ai beaucoup de respect pour M. Groslo, il fait du très bon travail. Et même pour M. Malontagne, pour le ministre Lamontagne, avec qui j'ai eu la chance de discuter avec à quelques reprises, moi, je pense qu'il y a une belle vision pour le Québec.
OK, parfait. Ben, on pourra peut-être lui demander une entrevue. Une entrevue cette semaine, on pourra lui permettre de nous décortiquer ça, de nous en parler de façon plus claire, parce que c'est important pour chez nous ce qui se fait actuellement. Merci, M. Charlebois.
Absolument. Au revoir.
Merci. Bye-bye. Voilà, Sylvain Charlebois, directeur principal du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie.